Bienvenue sur Expédition Tech, le podcast où l'on part à la rencontre des entrepreneurs tech qui révolutionnent leur marché. Dans chaque épisode, je vous propose de découvrir leur parcours, leurs ambitions, les dessous tech de leurs projets, mais aussi la réalité de leur quotidien sans artifice. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'histoire de Silicon Mobility avec l'un de ses fondateurs, Bruno Pocard. Et c'est parti sans transition, on se retrouve directement avec Bruno.
Bonjour Bruno.
Bonjour Alexis.
Bienvenue sur Expédition Tech.
Merci.
On est ensemble pour une petite trentaine de minutes. On va parler de toi, ton expérience, ton parcours, mais aussi de Silicon Mobility. Avant de revenir un peu sur ce qui vous a amené, parce que vous êtes plusieurs derrière Silicon Mobility, à créer cette entreprise-là en 2015. En quelques mots, on reviendra sur l'aspect technologique de l'entreprise. C'est quoi Silicon Mobility aujourd'hui?
C'est une soixantaine de personnes aujourd'hui. C'est une structure leader dans le domaine de l'électrification véhicule. On fournit des technologies semi-conducteurs d'un côté, donc des chips, et du software qui vont dans ces chips pour contrôler et optimiser le rendement d'un moteur électrique ou d'une chaîne de traction d'électrification de véhicules. On fournit des solutions dans le domaine du véhicule électrique direct, mais également dans le domaine de l'hybridation, par exemple.
2015, du coup, Silicon Mobility, c'est quand même pas ton premier coup d'essai. C'est quand même pas votre premier coup d'essai parce que vous êtes cinq cofondateurs de Silicon Mobility. Avant ça, il y avait Scaleoship. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'était Scaleoship et comment est-ce que tu passes d'une entreprise qui s'était plutôt diversifiée en termes d'activité, de secteur, etc., à te refocaliser sur un secteur bien spécifique avec une technologie bien spécifique?
Alors, donc Scaleoship était une structure qui faisait des produits également dans le domaine automobile, mais de manière beaucoup plus générale, adressée également les domaines industriels plus larges. On a vu passer une opportunité sur l'électrification véhicule. Il y avait une technologie qui était parfaitement adaptée à ça. Et il était nécessaire de redynamiser un projet pour venir adresser et focaliser justement sur la problématique qu'on voulait adresser. Et donc en décembre 2015, donc on n'a pas gâché un an là, on a décidé de partir avec ce projet. On a fait ce qu'on appelle un MBO, on l'a fait refinancer par des venture capitalistes. Et donc on s'est engagé complètement dans ce nouveau programme en focalisant nos technologies essentiellement sur la partie électrification véhicule. C'était la grosse différence avec Scaleoship, qui faisait beaucoup plus de choses, mais je dirais probablement un petit peu moins bien que Silicon Mobility, qui a complètement adressé la problématique.
Vous adressez des sujets d'aujourd'hui et de demain, qui sont l'électrification du véhicule, potentiellement demain le véhicule autonome, etc. Mais sur un produit, alors il y a du hardware avec des semi-conducteurs, de la puce, mais aussi du software. Même si le domaine d'activité est sexy et parle à tout le monde, c'est quand même quelque chose qui est quand même très très niché. Qu'est-ce qui fait que tu sentais l'opportunité? C'est grâce à Scaleoship, avec vos anciens clients, etc., où vous vous dites, là il y a peut-être un truc à faire, on met de côté les autres activités et on se concentre exclusivement sur un cœur d'activité qu'on avait commencé à développer. Tu vois, qu'est-ce qui fait que globalement là tu sens un peu le... Est-ce que c'est de l'instinct? Est-ce que c'est de la recherche marché? Qu'est-ce qui fait que... Là, tu te dis, là, il y a un truc à faire et on va se focaliser là-dessus sur les 10, 15, 20 prochaines années.
Oui, alors c'est de l'instinct, c'est de la recherche marché, c'est des contacts clients, c'est un certain nombre de choses. C'est également une problématique pour une structure de taille assez réduite, qui est une problématique de focalisation. On est excellent à faire une chose. On est aujourd'hui dans une dynamique dans laquelle on a une obligation de focalisation sur un domaine particulier, justement pour aller créer ces étapes de différenciation très très fortes. Et donc on a une technologie qui est extrêmement adaptée à ça et extrêmement différente, avec des besoins qui sont des besoins pas seulement de semi-conducteurs, mais également de software, on en a parlé, également d'outils. On pourrait en parler, également d'applicatifs. Donc on fournit aujourd'hui un full stack sur toute la gamme, justement parce qu'on a su focaliser ce qu'on n'aurait pas été capable de faire dans la société précédente.
Et juste toi, à titre personnel, t'as toujours été dans ce milieu des puces, semi-conducteurs, etc.
Voilà, moi j'ai 35 ans d'expérience dans le domaine semi-conducteur. J'ai commencé à l'INRIA, donc un institut de recherche en France. J'ai fait leur premier circuit intégré en 86, je crois. Et donc toute ma vie a été focalisée dans le domaine semi-conducteur et principalement des startups, des petites structures. Donc j'ai créé une première entreprise qui s'appelait Stacasic, qui est devenue Tech Imaging, qui s'est vendue par une structure américaine qui s'appelle Insilica, et puis après j'ai rejoint Scaleoship, et puis après j'ai créé Silicon Mobility. Voilà. Donc ça a été une succession d'expériences semi-conducteurs dans des petites structures, dans les startups, justement pour créer des éléments de différence. Et c'est très enthousiasmant, en l'occurrence, c'est ce que j'aime faire.
Et du coup, ce que je comprends, c'est que beaucoup d'expériences entrepreneuriales, t'as déjà été salarié
Alors, j'ai été salarié quand j'ai commencé. Hein, à l'INRIA, j'ai été salarié. Le premier projet dans lequel j'ai été embarqué a été mené par mon patron de l'époque. Hein, j'étais au GIPSI, au groupement d'intérêt public scientifique informatique. Et donc, il a créé une première entreprise, lui, dont je faisais partie. J'y suis resté 3-4 ans et j'ai créé ma première société après. Donc, ma première société, je l'ai créée il y a 30 ans, en l'occurrence.
Je ne te demanderai pas ton âge aujourd'hui, mais ok, trop cool. Si on se focalise maintenant sur Silicon Mobility et surtout la partie technologique, moi ce que j'aime bien sur des boîtes qui sont très tech, moi je ne suis pas quelqu'un de technique de base, j'aime bien partir du problème, et notamment du problème de vos clients. Mm-hmm. Globalement, c'est quoi le point de tension que vous aviez observé avec Scaleoship, que vous avez mis en lumière en 2015 avec Silicon Mobility? Concrètement, quels sont vos clients et surtout, c'est quoi les problèmes derrière qui font que Silicon Mobility a une carte à jouer sur le secteur ?
À terme, nos clients sont vous et moi. Hein.
Tu veux dire le client final ?
Le client final, l'utilisateur final, c'est la personne qui va acquérir un véhicule électrique. Et donc ces problèmes à lui sont les problèmes d'autonomie, sont les problèmes de coût. Ce sont des problèmes de pollution, ce sont des problèmes de temps de charge, etc. etc. Tous ces problèmes-là sont réglés, sont facilités par une meilleure optimisation du système motopropulseur des véhicules électriques. Et donc, les technologies développées, commencées à développer lors de la précédente entreprise et aujourd'hui portées par Silicon Mobility, sont des technologies qui vont justement adresser ces problématiques d'optimisation de la conversion énergétique à l'intérieur d'un véhicule, qui règle donc cet ensemble de problématiques que je viens de citer.
Donc tu m'as parlé d'autonomie.
Oui, autonomie.
Donc autonomie des batteries sur les véhicules électriques, effectivement, c'est toujours un peu la galère.
Voilà, plutôt que de faire 300 km, si on pouvait en faire 600, ça serait mieux. Okay. Le temps de charge, je suis l'heureux possesseur d'un véhicule électrique. Bon, ben, passer une demi-heure à la supercharge, c'est très agréable. Mais bon, je faisais un plein avec mon bon vieux diesel en 5 minutes avant. C'est cher. C'est plus cher qu'un véhicule thermique, encore. Alors ça va être
pourquoi
moins cher.
À cause de la technologie, le fait de tous les composants qu'il y a derrière.
Oui, oui. Et puis, un kilowattheure de batterie, c'est 150 euros, hein, en gros. Hein. Alors ça va en baissant, hein, mais ça reste coûteux. Et puis ça pèse, donc ça a du poids. Et puis c'est plein de choses qui sont pas très bonnes pour la Terre. Hein. Le lithium, c'est pas quelque chose de très commun. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui sont liées à cette volonté, je dirais, de Silicon Mobility de venir participer justement à cette création de valeur, sachant que une fois encore, on a à disposition dans la précédente entreprise déjà ces technologies qui viennent adresser des problèmes de temps réel sur et donc de capacité à venir traiter mieux ces conversions énergétiques nécessaires à l'intérieur d'un véhicule électrique. Donc peut-être que c'est intéressant d'avoir juste un mot là sur qu'est-ce qui est important. Hein. Donc si tu regardes un véhicule électrique, comment c'est fait, tu vas avoir évidemment une batterie qui est l'élément central, donc c'est un gros sac. Hein. Et quand tu prends une Zoé, je crois que c'est 60 kilowatts de batterie d'une Zoé, ça correspond peut-être à 7 ou 8 litres d'essence. Hein. C'est très très peu en l'occurrence. Alors, le côté positif de ça, c'est que ça a un moteur électrique qui est beaucoup plus efficace en termes de rendement. Bien qu'il ne soit pas encore parfait, sachant que c'est vraiment la deuxième grande problématique, ce moteur électrique, bien évidemment, plus il est contrôlé proprement et de manière efficace, plus il va être, il va permettre au véhicule d'aller loin, en l'occurrence.
Et d'avoir une durée de vie aussi sûrement plus
alors, longue. Alors, la durée de vie n'est pas un problème sur les moteurs électriques. C'est une grosse différence par rapport au moteur thermique, d'ailleurs. Un moteur électrique, c'est une vingtaine d'éléments qui vont avoir besoin d'être contrôlés de manière très, très rapide, très, très temps réel. Alors, les problématiques de temps réel sont des choses très importantes pour Silicon Mobility. Alors qu'un moteur thermique, c'est 2000 éléments qui ont besoin de temps réel, mais qui vont à peu près 1000 fois moins vite, hein, en l'occurrence. Donc là, le moteur électrique, c'est la microseconde. Le moteur thermique, c'est plutôt la milliseconde, hein, en termes de temps de contrôle. Entre la batterie et puis le moteur électrique, tu as besoin de transférer de l'énergie. Cette énergie, elle est portée par des systèmes de puissance. Donc là, on parle de centaines d'ampères, de centaines de volts qui ont besoin de venir alimenter le moteur électrique de manière à lui fournir sa traction. Cette énergie, la nature est mal faite, elle est stockée de manière continue à l'intérieur de la batterie, mais elle a besoin d'être formatée de manière alternative, multiphase pour les moteurs électriques.
Et donc là, pour être transféré vers le moteur et pour que la voiture...
Pour être transféré vers le moteur. Et donc là, il y a une problématique de conversion énergétique,
d'accord,
de contrôle de conversion énergétique. Et ça, c'est l'activité de Silicon Mobility. C'est là où on est fort. C'est là où on est les meilleurs. Et donc, on a aujourd'hui une capacité de venir convertir cette énergie en évitant le plus possible, le plus efficacement possible, les pertes énergétiques qui sont liées soit à la commutation des transistors de puissance, soit aux effets de pertes à l'intérieur du moteur, qui sont des pertes en fer, qui sont des pertes en cuivre.
Question peut-être de néophyte complet, comment est-ce que tu expliques que on peut pas avoir un transfert d'énergie qui soit un peu quasiment égal, tu vois, de dire il y a X énergie dans la batterie et dans le moteur, il n'y a pas de perte énergétique dans le transfert entre ta batterie et puis ton moteur.
Eh bien, une fois encore, la nature est mal faite. Hein. Si le moteur électrique pouvait être alimenté en continu, on n'aurait pas de perte énergétique, ou très peu. Là, en l'occurrence, non, il faut digitaliser et recontrôler de manière différente. Il faut fournir un certain nombre d'impulsions, être une histoire de puissance, en l'occurrence, et recréer une sinusoïdale parfaite avec un minimum d'impulsions. C'est la règle du jeu et celle-là. Et donc, on détient, nous, une technologie, une plateforme électronique, matériel, hardware, un chip, qui a cette capacité à venir traiter en parallèle cette information de manière à restituer la meilleure forme de signal, on parle de THD, de Total Harmonic Distortion, à l'intérieur du moteur, avec un minimum de temps de commutation.
Globalement, le livrable, entre guillemets, ce que vous proposez, tu m'as parlé tout à l'heure de software, de hardware. Si on se concentre sur le hardware, globalement, c'est quoi? C'est une petite puce?
Alors, c'est une puce.
C'est une seule puce? Il y en a plusieurs, il y en a plein
Alors,
dans une voiture
peut, la réponse est ça dépend. on a besoin d'une puce par moteur.
Ok. Hein,
et puis, on a d'autres systèmes qui vont convertir l'énergie. En l'occurrence, il y a besoin de nécessité de charger la batterie. Donc, on appelle ça un onboard charger en anglais, un chargeur de batterie. Là encore, la nature est mal faite. On prend de l'énergie du réseau qui est alternative.
Qui elle-même est convertie.
Qui elle-même est convertie à l'intérieur de la batterie. Et puis, idéalement, on arrive à adapter à la demande de puissance de moteur la sortie de la batterie. Donc là, on a besoin de convertisseurs DC-DC, donc continu-continu, de manière à venir adapter la demande et faire en sorte que si on doit perdre un peu d'énergie, on le perde sur une tension qui est la plus faible possible.
Ok.
Donc ça, donc, c'est... on estime à peu près, et c'est un chiffre important, que le potentiel global hein, de gain à ce niveau-là est de l'ordre d'une trentaine de pourcents.
Donc ça veut dire qu'en termes d'énergie, tu gagnes avec les puces de Silicon Mobility, tu gagnes à peu près 30%.
Tu pourrais aller jusqu'à gagner 30%. Hein, okay. Alors il faut en mettre jusqu'à 7 dans le véhicule. Et donc là, on a une approche complètement système, hein, des puces qui vont dans les systèmes onboard charger, dans les systèmes DC-DC de conversion continue-continue, et dans les systèmes de conversion continue alternatif, on appelle ça des onduleurs en français, des inverteurs en anglais, qui vont contrôler directement le moteur.
Ok, donc ça c'est la partie hard, il y a aussi la partie software.
Alors la partie software, c'est, tu m'as posé la question tout à l'heure, qui sont nos clients? On a deux types de clients, hein. On a des clients qui sont des clients qui sont déjà établis hein, dans le marché, qui sont déjà des acteurs du marché, donc là ça va être des équipementiers hein, principalement, ça va être des Valeo, ça va être des Bosch, ça va être des Conti,
qui
ça va
sont la supply des marques
la supply des marques derrière.
Ok.
Et donc ces gens-là ont déjà une technologie, ont besoin donc pour utiliser ton produit d'avoir des outils et d'avoir des librairies. Donc on fournit des outils et des librairies à ces gens-là de manière à ce qu'ils puissent construire leur propre solution.
D'accord. Okay.
Et puis on a un marché qui est en pleine évolution, en plein boom, avec tout un tas de gens qui arrivent, qui sont des nouveaux entrants sur le marché. Alors, on a plusieurs catégories. Hein. On va avoir des gens qui viennent complètement du domaine logiciel, du software, qui ne sont pas des fabricants automobiles à la base. Le plus célèbre était Tesla, hein, qui eux vont, bon, il y en a tout un tas d'autres, hein, qui eux vont avoir besoin donc de solutions déjà intégrées, compatibles automobiles. De manière à aller au plus vite sur le marché. Et donc, pour ces gens-là, on va fournir des applications qui sont des applications dans lesquelles on aura tous les systèmes de contrôle, justement, du moteur ou des convertisseurs nécessaires pour leur permettre de gagner du temps. Alors, j'ai parlé des nouveaux entrants OEM, donc les fabricants. On va avoir également des gens qui sont issus d'autres domaines du marché automobile, en particulier des gens qui vendaient des solutions sur le marché thermique, qui sont en train de voir leur marché en train de se réduire dramatiquement et qui ont besoin donc de venir aller vite pour prendre leur relais de croissance sur ce marché. Et puis on a des nouvelles géographies. Hein, on a parlé tout à l'heure ensemble de la géographie principale aujourd'hui de l'électrification, qui est la Chine, avec là une abondance de nouveaux projets qui vont avoir besoin et qui ont besoin déjà de solutions quasiment clés en main, de manière à aller vite au marché. Et donc c'est pour ça qu'on fait également des applications.
Je lisais un article qui présentait Silicon Mobility et qui présentait aussi la concurrence, notamment la concurrence américaine, et qui vous comparait notamment à des acteurs, des gros acteurs américains qui arrivent sur le marché, des Intel, des Nvidia, des Qualcomm.
Alors non, ces gens-là ne sont pas en concurrence. Hein. On est, nous, sur des systèmes extrêmement temps réel, donc très très proches des capteurs et des actuateurs. Nous, notre job aujourd'hui, c'est venir faire en sorte que ce temps réel soit traité de manière sûre et absolument sûre. Ça peut être dramatique dans un véhicule électrique s'il y avait une perte de signal, ça serait un freinage brutal et potentiellement un décès, extrêmement sûr et extrêmement rapide. Quand tu parles de Qualcomm, quand tu parles de Nvidia, quand tu parles d'Intel Mobilize, ils sont eux sur le cerveau véhicule.
D'accord.
Donc, je dirais plusieurs étages, au moins deux étages au-dessus de là où on agit nous. Alors maintenant, on doit s'interfacer avec ces gens-là. Hein, et donc là, on a des produits qui permettent, des produits de roadmap en l'occurrence, qui permettent de venir se coller à ces problématiques. Et donc, on travaille, nous, de bas en haut, alors que ces gens-là regardent le monde de haut en bas.
Potentiellement, demain, du coup, tu les verrais plutôt comme des partenaires ou potentiellement,
absolument,
demain, eux pourraient redescendre aussi de niveau?
Non, je pense qu'on restera à des besoins différenciés et des partenaires, oui. Oui, partenaire est un bon terme. Alors, ce qui est intéressant sur ces acteurs-là, c'est qu'ils ont la même approche que nous, ce qui est assez différente de l'approche traditionnelle automobile. C'est-à-dire qu'ils ont une approche qui n'est pas une approche uniquement hardware, matériel, semi-conducteur, mais également une approche software, avec une valorisation de la partie software.
Chose que tu n'avais pas vraiment avant sur du thermique ou...
C'est une des grosses différences avec la société précédente, Scaleochip. Hein, c'est ce qu'il a fallu créer. Et alors, si, il y avait du software sur la partie thermique, mais ce software était principalement détenu par l'équipementier. Aujourd'hui, sur ces problématiques stratégiques, le fabricant automobile a la volonté d'en détenir une partie, en tout cas de le comprendre.
Ok, donc ça c'est quand même un changement, une transformation.
C'est une transformation importante du marché. Hein. Donc sur ces quatre éléments là dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein,
Est-ce que tu peux nous les rappeler? C'est intéressant.
Connectivity, autonomous driving, services and electrification, donc le case automobile, on va là avoir une problématique de détention software, hardware liée.
On les a abordés un petit peu avant notre échange sur chacun des quatre points. Revenir un petit peu dessus, pourquoi est-ce que ça, c'est des choses que tu n'avais pas forcément avant, qui arrivent demain globalement
je pense que c'est assez facile à comprendre. Hein. Le marché automobile est en pleine transformation, il subit à peu près les mêmes types de transformations que le marché de, je regardais les téléphones portables, hein, du mobile. Donc cette transformation vient d'une forme de convergence. Hein. Donc les systèmes véhicules aujourd'hui ont nécessité d'être connectés, c'est une demande utilisateur. Les utilisateurs de véhicules passent du temps dans les embouteillages, voilà. Donc il y a du temps libre. Et donc ce temps libre peut être permis par l'autonomie véhicule. Hein. Je dirais également que ça règle en particulier, c'est la raison pour laquelle les Chinois le regardent beaucoup, les problèmes de congestion. C'est-à-dire que bon, c'est pas forcément le monde dont on rêve, mais bon, c'est vrai que si on avait un train de véhicules autonome, il y aurait moins d'embouteillages. Le service, eh bien, aujourd'hui, les problématiques de détention véhicule ne sont plus du tout perçues de la même façon. Hein. La nouvelle génération, je te regarde, plus jeune que moi. Le besoin de détenir un véhicule n'est pas forcément le même.
Effectivement.
Hein. Par contre, tu parlais d'autolib tout à l'heure, avoir un accès à un véhicule quand c'est pratique, etc., etc. Donc ça, c'est le service. On parlait d'Uber, on parlait de Lyft, etc., etc. Puis l'électrification, eh bien, c'est ce qui permet, je dirais, de répondre d'une manière générale à toutes ces demandes sans saloper plus que nécessaire le monde dans lequel on vit. On a également une barrière à l'entrée sur les systèmes électrifiés qui est inférieure au système thermique ancien, ce qui permet aux nouveaux acteurs logiciels de pénétrer sur le marché.
Comment t'expliques ça?
Oh ben, je l'ai expliqué tout à l'heure. Assembler 20 éléments sur un moteur, c'est beaucoup plus simple que d'investir sur un moteur thermique qui coûtait des centaines de millions.
Du coup, entre 2015 et 2020, globalement, il se passe quoi sur les sujets R&D? C'est complet R&D, recrutement d'équipe, etc. Il y a quelques POC qui se sont faits en amont.
Il y a une quarantaine de proof of concept qui se sont faits en amont. Il y a aujourd'hui 18, je crois que c'est 18 le chiffre, clients qui ont fait une intégration système de nos produits. Il y a des audits, il y a tout un tas de choses. Il y a un développement de la technologie. Il y a en effet une structuration d'équipe, une création d'une valeur ajoutée qui n'est pas uniquement hardware mais également logiciel. On n'a pas chômé. Hein, on est allé au plus vite. On aurait pu aller plus vite probablement, mais je dirais que le Covid nous a très peu, la crise, la pandémie actuelle nous a un petit peu impacté. Mais pas tellement vu de notre fenêtre, plus vu de la fenêtre de nos clients. On est sur des bancs de test de nos clients, donc aux quatre coins du monde. Et aux quatre coins du monde aujourd'hui, ben, ce n'est pas possible. Donc on fait ça en remote, en distanciel. Et donc, un support d'un banc de test distanciel en Chine, c'est compliqué. Donc bon, voilà. C'est ce qui nous a été donné, donc on a fait avec. Ça nous a permis également, par contre, de focaliser peut-être un peu plus sur des technologies internes et donc d'arriver aujourd'hui au marché avec un taux de maturité qui peut être supérieur à ce qu'il était avant la crise. Oui.
Tu me disais en intro une soixantaine de personnes aujourd'hui.
C'est ça, au global.
Ça m'intéresse un peu de savoir, parce que du coup, il y a du hardware, il y a du software, ça complexifie un petit peu aussi la partie business model et recherche, etc. Dans les grandes lignes, comment est structurée un peu l'équipe? Je crois qu'il y a quasiment 50 ingénieurs aujourd'hui dans l'entreprise.
Donc le Silicon Valley, c'est assez simple. Hein. Je pense qu'on a 90-92% d'ingénieurs PhD, enfin d'ingénieurs docteurs de formation, hein, donc extrêmement techniques. À peu près 50%, un peu moins, 40% de spécialisés dans les systèmes hardware, semi-conducteurs.
D'accord.
Pour 50 à 60% spécialisés dans les systèmes software et systèmes. Hein, la partie système étant, je dirais, la réunion des deux. Une structuration assez simple, hein, avec une équipe commerciale, évidemment, qui est, elle, en Chine, en Allemagne et en France.
Qui sont intégrés à l'entreprise, qui sont des partenaires?
Non, qui sont intégrés à l'entreprise. On a également des distributeurs en Chine et au Japon, mais les gens dont je parle là sont intégrés à l'entreprise. Partie marketing, évidemment, une partie finance, une partie opération, très très importante pour nous. Hein, c'est-à-dire la capacité à construire un produit et à le livrer à nos clients, on appelle ça les opérations. Surtout sur la partie semi-conducteur, qui est basée en Chine. Voilà, donc en gros, je dirais 80% des personnels sont à Sophia Antipolis. Et le reste du monde se partageant les 20% avec des très fortes croissances sur la partie chinoise, potentiellement également sur les parties japonaises, américaines et allemandes bientôt.
Et je me pose une question sur les... Tu me disais que vous aviez quand même quelques commerciaux, notamment détachés sur place. C'est quoi, c'est des ingénieurs commerciaux? Parce que je me dis, sur des sujets aussi tech...
Alors, c'est d'abord des ingénieurs, et puis c'est des ingénieurs qui ont une capacité à comprendre la technologie pour l'amener à nos clients. Donc c'est de la vente technique, on est sur une vente éminemment technique, directement au niveau des services R&D ou Advance ou partenariat de nos clients.
Silicon Mobility, si on se projette dans... alors les cycles de vente sont effectivement longs, donc si on se projette sur 10, 15, 20 ans demain, c'est quoi un peu l'ambition que vous avez? C'est de rester toujours focalisé sur l'industrie automobile et globalement de prendre tout le marché? Est-ce qu'il y a une stratégie d'expansion derrière sur d'autres marchés, d'autres verticales?
Silicon Mobility, on parle de mobilité. Donc la mobilité, il n'y a pas que la voiture, il y a d'autres éléments de mobilité. Donc oui, on commence à regarder un certain nombre d'autres types de mobilité. Hein. On peut parler de drones, par exemple. On peut parler de trains. On peut parler d'avions. On peut parler de bateaux. On peut parler... Voilà. Également les bicyclettes, hein, les
trottinettes,
les tuk-tuk, hein, en l'occurrence, hein, il y a des choses qui sont en train de se développer en Inde sur ces éléments-là. Donc il y a cette direction-là. On parle également de conversion énergétique. Donc là on n'est plus dans la mobilité, mais on est dans le contrôle de l'énergie. Donc tout ce qui est énergie est un domaine qui nous intéresse. Et donc le domaine industriel est extrêmement intéressant pour nous également.
Et par puis, exemple, excuse-moi de te couper, je te prends l'exemple de l'éolien, etc. Tu as aussi des pertes d'énergie, je suppose.
Absolument, absolument.
Okay.
Donc on est complètement intéressé par ça. Et puis il y a la montée dans la chaîne véhicule. Hein, aujourd'hui, je t'ai expliqué tout à l'heure qu'on était sur le très très bas niveau, donc sur le contrôle vraiment du temps réel dur. Il y a une place à un niveau un petit peu au-dessus, sur la partie domaine contrôle, zonal contrôle, hein, donc les nouvelles architectures véhicules, pour venir justement se coller au système de Central Mind qui va prendre les décisions. Tout ça étant évidemment sujet au point numéro un, vraiment, vraiment important pour une structure telle que Silicon Mobility, pour ses financeurs et pour son conseil d'administration, qui est une focalisation extrêmement forte sur les éléments à très, très forte valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on fait.
Alors j'aime bien terminer chaque échange en parlant, effectivement, on a beaucoup parlé de tech, de technologie, et il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont comme fer de lance, faire de la tech pour faire de la tech. C'est bien, mais pour nous, avec Nefty, ce n'est pas forcément suffisant. Je comprends quand même, Silicon Mobility, c'est dans le nom. Il y a un sujet de mobilité et il y a un sujet qui est aussi assez avant-gardiste et qui va arriver demain sur le futur de la mobilité. Il y a aussi un enjeu aussi environnemental avec l'électrification. On a aujourd'hui parlé de l'industrie automobile, mais à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres cas d'usage. Comment est-ce que demain, toi, tu vois l'industrie automobile, le secteur automobile, ça sera tout électrique, tout autonome?
Oui,
comment est-ce que tu l'envisages?
Il faut dire ce qu'est demain, mais oui, à terme, je pense qu'il n'y a pas débat. On sera en tout cas sur du moteur électrique. Est-ce qu'on sera sur du véhicule équipé de batterie? Probablement pas. Hein. On sera sur. On parle de piles à combustible, hein, par exemple, ce genre de technologie, sur lequel on est déjà d'ailleurs. Hein. Donc des choses qui sont infiniment plus propres que la batterie proprement dit. L'autonomie, je pense que ça fait pas un doute non plus. Hein. C'est une quasi-certitude, ce sera plus tard, très probablement. La connectivité, elle est déjà en place. Alors, elle va continuer à
se développer.
À se développer, hein. Et puis, le service est déjà en place et là aussi, il va continuer à se développer. Donc, je pense que nos enfants, ou même mes petits-enfants, hein, parce que je suis un peu plus âgé que toi, seront utilisateurs de véhicules qui seront totalement différents, ou de mobilité qui sera totalement différente de ce sur quoi on travaille aujourd'hui, mais qui sera complètement issu de ça, dans le principe. Donc, je pense qu'il n'y a aucun doute. La problématique sociétale est super importante. Elle est majeure. Hein.
De quel point de vue?
Un moteur électrique, c'est plein de métaux rares. Les métaux rares, c'est rare, donc il faut faire en sorte de les économiser. Une batterie, c'est plein de cochonneries. Donc faire en sorte de les réduire. Hein, ça pèse très lourd. Enfin bon, il y a tout un tas de problématiques qui sont associées à ça, qui font que il est évident que on va continuer, que le monde va continuer à se développer sur quelque chose qui sera infiniment plus propre. Et infiniment plus efficace. Hein. Voilà, donc on est sur le chemin.
Je me pose la question parce qu'effectivement, la mobilité, il y a des enjeux sociétaux, des enjeux sociétaux, pardon, environnementaux. Si je titille sur même les puces et le hardware, aujourd'hui, il y a de la matière première qui est extraite, des mines, etc. Demain, ça veut dire aussi potentiellement que la manière dont vous concevez les puces, les semi-conducteurs, va aussi évoluer dans ce sens-là?
Alors, je dirais qu'on n'est pas, nous, à ce niveau de la chaîne de valeur.
D'accord. Hein,
on est ce qu'on appelle une fablesse.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on n'a pas d'unité de fabrication détenue par l'entreprise.
D'accord.
On utilise donc des structures extérieures pour fabriquer nos propres semi-conducteurs, donc aux quatre coins du monde, hein, enfin on les connaît, et donc la crise du semi-conducteur aujourd'hui, c'est plutôt à cet endroit-là qu'il y a des difficultés plutôt que sur les concepteurs tels que nous sommes. Donc évidemment, on fait attention à ce que la problématique sociétale soit partagée, en tout cas avec les structures qu'on utilise. Nos produits doivent être certifiés. Donc, certifié dans le domaine automobile, c'est tu prends un circuit intégré et puis tu le tortures et lui fais subir tous les stress possibles et imaginables de manière à t'assurer que à terme, il est encore en vie. Et donc là, on est obligé de venir utiliser des technologies qui sont particulières de manière à garantir, par exemple, qu'à 125 degrés, le bout de semi-conducteur va continuer à marcher pendant des heures et des heures et des heures, enfin, etc., etc. Donc tous ces éléments-là sont parfaitement intégrés au cycle de développement. On a également des problématiques de qualité, évidemment. Et puis on a parlé très peu parlé, mais c'est une des technologies majeures de Silicon Mobility, mais de la sûreté de fonctionnement, donc la capacité des systèmes à venir s'auto-diagnostiquer et déterminer s'ils sont en faute et donc corriger cette faute ou là, à minima la contenir. Et donc là aussi, on a quelques jolis brevets, hein, à peu près 25 brevets, 28 brevets je crois aujourd'hui chez Silicon Mobility sur cet ensemble de domaines qui nous mettent parmi les meilleurs mondiaux. Donc toutes ces problématiques sociétales qui font qu'il faut qu'une voiture soit propre, il faut qu'une voiture soit sûre, il faut qu'une voiture ne mette pas en danger la vie d'autrui, enfin, etc., etc., sont des choses qui sont complètement intégrées à l'intérieur de notre projet.
Écoute, merci beaucoup Bruno. J'étais ravi d'échanger avec toi, de découvrir Silicon Mobility et puis la vision que tu portes avec Silicon Mobility. Je te souhaite une belle expédition et je te dis à très vite.
Eh bien, merci beaucoup Alexis. C'était un plaisir.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, eh bien le meilleur moyen de nous aider et de soutenir le podcast, eh bien c'est de le partager à vos amis et à vos collègues. Vous pouvez également laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast en tapant Expédition Tech. Merci d'avoir écouté l'épisode et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.